Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Zenni offers prescription glasses starting at $695, as well as affordable sunglasses, blue blockers, and more. The best part? Try any frame, anywhere, with our 3D virtual try-on. Visit Zenni.com today and change the way you buy glasses forever.
Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anaïs, Marine et Morgana pour nous parler d'Ayurveda dans le yoga. Donc, je vous souhaite une très belle écoute, c'est un échange passionnant. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast des yoga dans nos vies. Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où aujourd'hui on va aborder le thème de l'Ayurveda et le yoga. Donc je suis ravie d'accueillir Anaïs, Marine et Morgana qui vont se présenter très vite pour nous parler de tout ça. Je vous laisse la parole les filles.
Bonjour, moi je suis Anaïs, donc je suis la fondatrice de Ayuin, qui est une marque de compléments alimentaires ayurvédiques. Donc à base de plantes bio, basées sur la pharmacopée ayurvédique. Et j'ai lancé depuis un petit peu plus de 3 mois sur mon site qui est ayuin.fr. Et vous pouvez trouver des formules aussi bien pour la digestion, la relaxation ou la vitalité.
Super, merci. Bienvenue Anaïs.
Merci.
Marine, vas-y.
Bonjour. Bonjour, moi je suis donc Marine. Je suis naturopathe et professeure de yoga. Dans ma pratique de naturopathie que j'exerce depuis maintenant presque 8 ans, je mêle aussi bien l'approche occidentale naturopathique classique que l'approche ayurvédique, qui est très chère à mon cœur. J'enseigne le yoga depuis à peu près 6 ans, 7 ans, mais je pratique depuis presque 20 ans. Et bien sûr, pour moi, le lien entre naturopathie, ayurveda, yoga, c'est... pour moi, ça fait partie des outils différents d'une même compréhension globale de l'être et de la santé sur tous ces plans. Et donc, ça me permet d'accompagner aussi bien mes patients et les élèves dans leur développement personnel en utilisant donc, les différents outils que ces pratiques ont à offrir.
Super, merci Marine. Morgana, à ton tour.
Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Morgana Roth, je suis très heureuse déjà de cette invitation d'être parmi vous aujourd'hui. Moi je suis thérapeute holistique, donc en fait ça englobe plein de choses, plein de casquettes différentes, mais là j'aurai plutôt la casquette de praticienne en Ayurveda aujourd'hui, c'est surtout sur ça qu'on va échanger. Mais sinon moi je réalise des lectures akashiques, ce qu'on appelle des lectures akashiques, des accompagnements spirituels plus globaux. Et pour tout ça, pour guider les gens dans leur développement spirituel, leur éveil de conscience, un mieux-être global. Voilà.
Super, merci beaucoup. Alors du coup, je vais commencer avec ma première question. Du coup, est-ce que vous pouvez rapidement, chacune de votre tour, nous définir l'Ayurveda très simplement pour les personnes qui ne connaissent pas ou très peu, ou même pour les personnes qui connaissent, selon vous? Donc je vais partir dans le même sens. Anaïs, est-ce que tu veux commencer?
Ok, j'aurais invité Morgana à parler de ça, parce que c'est vraiment l'experte aujourd'hui sur ce sujet-là, mais moi je peux donner une vision qui est juste pragmatique. Pour moi, l'Ayurveda, c'est réellement un art de vivre, c'est une possibilité de comprendre le monde, de se comprendre soi-même. C'est aussi toute une partie alimentaire, hygiène de vie, soins, qui nous permet de trouver l'équilibre et donc d'éviter de la maladie. Donc c'est vraiment un système de guérison qui nous permet de vivre en harmonie et heureux aussi, puisqu'il y a aussi un aspect quand même de prise de conscience et un peu plus spirituel. Donc voilà, pour faire très très simple, et pas rentrer encore dans les éléments, les doshas que je vais laisser les autres aborder.
Non, oui, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et j'ai un petit exemple à donner dont tu m'as parlé déjà dans l'autre podcast. Toi, tu as découvert l'Ayurveda parce que tu avais des problèmes de digestion, donc notamment ça, l'Ayurveda peut vraiment beaucoup aider dans cette médecine de notre corps qui est parfois un petit peu capricieuse. Merci Anaïs. Marine, est-ce que tu veux reprendre et comme ça, on finira par la Morgana qui nous donnera une belle définition.
L'Ayurveda, à mon sens aussi, elle est à replacer dans le contexte de la culture indienne. Donc, en Inde, vous avez trois piliers qui portent la culture et le système, enfin, vraiment toute la façon dont ce pays s'est construit. Vous avez le Tantra, qui est vraiment la philosophie et l'aspect développement spirituel, même s'il y a beaucoup de développement spirituel qui est pris en charge aussi, enfin pris en charge, c'est bizarre comme mot, qui est incorporé, que ce soit dans le yoga ou de l'Ayurveda. Donc vous avez le Tantra, le yoga et l'Ayurveda, qui sont vraiment les trois piliers fondateurs de la culture indienne et qui ont vraiment structuré aujourd'hui et qui ont beaucoup essaimé dans le monde. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver profondément enraciné en Inde. Et donc, on pourrait dire que, après, je suis pas forcément super, enfin, c'est toujours difficile de catégoriser, mais donc voilà, vous avez vraiment le Tantra qui va s'attacher vraiment au développement spirituel, le yoga qui s'attache à la purification du mental et vraiment au développement de la conscience, et l'Ayurveda qui va être vraiment l'accompagnement plus sur le plan physique, mais ça dépasse aussi, bien sûr, quand on pratique un tout petit peu l'Ayurveda, on voit bien que ça dépasse largement le plan physique. Voilà, si on veut catégoriser, mettre les choses dans des cases, voilà, on va dire le physique pour l'Ayurveda, le mental pour le yoga et le spirituel pour le tantra. Mais encore une fois, c'est très réducteur.
Mais c'est bien, c'est simple. Du coup, ça nous aide à bien comprendre facilement à quoi ça correspond. Merci. Morgana, à ton tour, du coup.
Alors, déjà, on va commencer par l'étymologie sanscrite. Hein. L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Enfin, c'est une des traductions simplistes pour qu'on puisse le comprendre de façon intelligible. Mais pour moi, c'est plus un système vraiment de médecine, une naturopathie qui se veut véritablement holistique et préventive. Donc, c'est vraiment, il y a d'un côté le côté médecine curative qui permet déjà d'appréhender l'humain, sa santé physique, psychique, émotionnelle. Et il y a aussi tout le côté vraiment spirituel dont tu parlais, Marine, et holistique, du coup, de façon globale, où on va considérer la personne comme une âme. On va vouloir guérir cette personne et non pas guérir un symptôme ou on va vraiment aller chercher cette cause, la cause d'un mal, et essayer de le comprendre et d'aller le chercher à la racine. Donc pour ça, on va apprendre à se connaître soi-même. Donc c'est là qu'il va être intéressant de connaître sa constitution de naissance, donc la prakriti. Puis on va réadapter ensuite selon ça le mode de vie en rééquilibrant notamment l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est juste une des multiples facettes de l'Ayurveda, comme tu disais aussi, Marine, parce que les habitudes de vie comme le sommeil, le sport, ça va être aussi très très intéressant à les rééquilibrer et au moins juste connaître les grands concepts. Et éventuellement se complémenter avec des plantes ayurvédiques qui vont nous rééquilibrer. Voilà, ça c'est plutôt la casquette de Anaïs qui pourra nous parler de ça. Donc il y a vraiment plein de choses en Ayurveda qu'il est intéressant d'aller explorer. C'est vraiment une exploration de soi pour mener à une meilleure compréhension du monde finalement qui nous entoure, puisqu'on va parler de trois énergies principales qui sont Pitta, Vata et Kapha, donc les trois doshas. Donc, on verra si on en parle d'ores et déjà ou si on parle de ça plus tard dans le podcast.
Je vais déjà laisser, merci beaucoup Morgana, la parole à Marine parce que je crois qu'elle voulait rebondir sur ce que tu disais. Et après, oui, je veux bien que tu nous fasses des petites définitions des doshas. Donc Marine, je te laisse la parole.
Mais c'est pour aller un petit peu... c'est pour aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce qu'elle disait. La maladie n'existe pas en tant que telle en Ayurveda. On parle de déséquilibre. Et c'est là où l'introduction du système des doshas va être intéressante. C'est qu'il n'y a pas de maladie en tant que telle. On va juste être sur un déséquilibre de tel ou tel dosha par rapport à sa prakriti, donc sa constitution de naissance, qui est déterminée par la prévalence d'une ou plusieurs doshas sur les autres. Donc il y a besoin de sortir un petit peu du concept occidental d'une maladie qui viendrait de l'extérieur, même si, bien sûr, on peut avoir un déséquilibre des doshas qui vient d'un pathogène extérieur. Mais c'est pas une cause extérieure qui va causer une maladie. C'est vraiment un déséquilibre interne. Donc, il y a besoin de sortir un petit peu de cette espèce de dualité maladie-sain pour plutôt rentrer dans une pensée où on est dans quelque chose de beaucoup plus... on n'est pas sur quelque chose de linéaire, on est sur quelque chose de beaucoup plus cyclique, qui est un peu intégré à chaque fois, où les doshas sont intégrés les unes dans les autres, où le déséquilibre, la notion d'équilibre est très fine entre deux déséquilibres. Et comme tu disais, Morgana, l'Ayurveda, ça permet vraiment d'avoir une compréhension très globale pour retrouver cet équilibre qui est propre à chacun. Et qui va lui permettre d'accomplir sa mission d'âme. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter.
Super, merci Marine. Non mais c'est un bon complément et du coup ça nous amène aussi à se dire que voilà, c'est une compréhension interne de soi, comme finalement le yoga pourrait nous l'inculquer aussi, d'apprendre à mieux se connaître et intérieurement et extérieurement, et donc l'Ayurveda y participe aussi. Mais moi je suis novice, donc vous allez me confirmer tout ça durant l'épisode. Morgana, est-ce que tu veux nous faire les petites définitions du coup des doshas?
Oui, bon, alors là, c'est clair que vu qu'on dispose quand même d'assez peu de temps, on va à l'essentiel dans les partages qu'on fait. Mais merci beaucoup, Marine, pour ces précisions, parce que c'est clair que vraiment, c'est toute une philosophie et c'est beaucoup moins archétypal que ce qu'on peut apprendre en Occident, dans certaines formations et tout. Donc, c'est vraiment hyper important de le souligner. Faire un petit cours très très rapide sur les doshas. L'Ayurveda, ça part du principe que toute chose sur Terre contient en quantité et en qualité variable 5 grands éléments. Donc l'élément éther, l'élément air, l'élément feu, l'élément eau et l'élément terre. Donc il y a un élément supplémentaire par rapport aux 4 éléments que nous on pense habituellement en Occident, qui est donc l'élément éther. C'est aussi ce qu'on va appeler Akasha. Donc moi, c'est en lien direct, c'est vraiment l'Ayurveda qui m'a menée ensuite vers les archives akashiques, pour la petite parenthèse. Et donc les 3 doshas, ça va être les 3 énergies vitales qui sont responsables du fonctionnement du corps, donc le processus biologique, mais aussi vraiment psychologique et tout l'aspect aussi spirituel qu'il y a autour. Et donc ces 3 énergies vitales, elles vont permettre la vie. Donc il y a notamment l'énergie de Vata, qui est un mélange d'air et d'éther. Il y a aussi Pitta, qui est un mélange de feu et d'eau. Et Kapha, qui est un mélange de terre et d'eau. Donc ça va faire une sorte de boue. Donc ces 3 doshas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont vraiment présents en quantité variable dans toute chose. Et ils sont présents chez tout le monde, mais seulement en proportion variable. Donc c'est ce qui va permettre aussi vraiment de comprendre que chacun est unique, tout à fait unique, que chacun a des qualités qui sont complémentaires aussi. Et donc c'est en ça que c'est très intéressant de connaître aussi sa constitution de naissance pour savoir un peu quelle est la combinaison unique de ces 3 doshas en proportions différentes chez soi, pour comprendre son mode de fonctionnement. Et puis, ça permet aussi de mieux appréhender le monde, hein, puisque on voit vraiment l'aspect d'unité de chaque chose, en fait. Après, je ne sais pas si on peut continuer à développer davantage là-dessus, mais je pense que déjà, c'est un bon,
oui,
un bon départ dans ces 3 notions, en fait.
Oui, c'est une belle définition. Et du coup, ça nous explique mieux pourquoi on dit qu'on peut, on a en chacun de nous un ou deux doshas prédominants par rapport aux 3. Mais effectivement, tu vois, je l'avais vu dans ma formation de yoga, mais là, c'est vraiment très, très bien expliqué de manière simple. Et moi, j'avais compris que qu'on n'en avait que un ou deux, pas qu'on en avait trois, tu vois, qui étaient tous présents. Donc, c'est très bien de refaire un point. Merci, Morgana. Je crois que Marine, tu veux intervenir et Anaïs aussi. Donc, je vais laisser Marine.
Oui, en fait, tout est dans tout. Donc, on a forcément les trois présentes. Au même titre que les doshas, en fait, elles sont issues de ce qu'on appelle les gunas. Donc, je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer ça, mais vraiment toutes les qualités constitutives de la matière, on les a forcément en nous, à différents degrés, mais on a forcément les trois. Et la couleur que va prendre ta prakriti, donc ta constitution de naissance, elle est déterminée par comment se sont placés les doshas pendant la grossesse et au moment de ta naissance. Mais par nature, tu contiens tout. Tout est dans tout.
Ok, super. Merci. Anaïs, est-ce que tu veux compléter ?
Oui, je voulais juste préciser qu'effectivement, on a les trois, mais on a des dominances. Et ces doshas dominants vont avoir certaines caractéristiques qui, c'est le cas de toute chose autour de nous, hein, donc aussi bien un animal qu'une plante, qu'un objet a des caractéristiques. Et ce que je trouve fascinant dans l'Ayurveda, c'est que ça nous permet de comprendre ce qui va nous équilibrer. Et du coup, si nous sommes nous-mêmes, par exemple, moi je suis Pitta, donc j'ai principalement du feu pour le faire très facile à comprendre. Mm-hmm. Donc, je vais bénéficier de choses qui sont opposées, donc qui vont me rafraîchir. Et quand on comprend qu'en fait, les opposés s'équilibrent, bah, c'est là qu'on peut mettre en place dans son quotidien des choses qui vont permettre de s'équilibrer.
Ok, c'est super. Ben, merci beaucoup pour ces précisions, les filles. Est-ce que vous vouliez apporter autre chose ? Marine, tu as parlé des Vedas, je crois.
Non, des Gunas.
Gunas, pardon.
Les gunas, en fait, ce sont les... Comment on pourrait expliquer ça simplement ? Les énergies qui vont structurer la matière. C'est-à-dire qu'à partir des cinq éléments dont a parlé Morgana, donc éther, air, feu, eau et terre, sont issues les qualités qui vont structurer la matière. Donc en Ayurveda, encore une fois, on n'a pas une pensée causaliste linéaire. On parle vraiment en termes d'énergie structurante. Et les doshas sont issus des gunas, c'est-à-dire que les gunas, ce sont les forces, les énergies, les qualités, comme vous voulez les appeler, qui structurent la matière. Donc, par exemple, donc vous avez trois gunas, comme il y a trois doshas, il y a trois gunas. Vous avez le sattva, le rajas et le tamas. Et dans la pensée ayurvédique, ces qualités, ces gunas sont extrêmement importantes parce qu'elles vont structurer aussi tout ce qui nous entoure, donc toute la matière, et c'est à partir d'elles que vont être issus les doshas. Donc tout à l'heure, par exemple, on avait l'exemple du dosha vata qui est constitué d'air et d'éther, et donc lui, directement, il est issu du principe du sattva qui est la pureté, la légèreté, la lumière, la clarté, quelque chose de très léger, de très pur. Mm-hmm. Le rajas, la deuxième gunas, correspond à quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, de l'agitation, de l'excitation, quelque chose de très dynamique.
Donc le pitta.
Et donc, qui va donner naissance au pitta, bravo.
Je commence à comprendre.
Ouais, c'est important de replacer l'ordre, enfin, c'est un peu la cosmogonie, en fait, comment la matière s'est créée. Mm-hmm. Et donc, de cette qualité du... Et donc, la troisième gunas, qui est le tamas, qui représente plutôt l'obscurité, la pesanteur, la lenteur, l'inertie, tout ce qui se trame dans les profondeurs. Et donc, bien sûr, là, on a la naissance du dosha kapha, ou kappa, comme tu disais. Moi, j'avoue, j'ai l'habitude de dire kapha. Mmh. Et donc, à partir de ces trois gunas, encore une fois, chaque gunas n'est pas exclusivement attitré à une dosha, hein, c'est toujours tout est un petit peu mélangé. Hein. Mais on voit bien qu'en fait, comment procèdent les doshas de ces différents éléments, ça passe par les gunas, et ensuite, on arrive à l'application physique métabolique des gunas qui s'appelle donc les doshas.
Super.
Et, je voulais rajouter quelque chose, mais c'est parti. C'est pas grave.
Ça reviendra, mais désolée, je t'ai coupée, du coup, je t'ai fait perdre ton fil.
Non, non,
mais en tout cas, c'était très intéressant et c'est bien qu'on puisse replacer les bases pour continuer sur la suite. Du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Quel est selon vous, ou quels sont, selon vous, les liens ou le lien entre yoga et Ayurveda? Parce que c'était ça qu'on voulait amener aussi dans cet épisode, c'était de montrer la nécessité d'utiliser l'Ayurveda dans sa pratique du yoga, etc. Donc, je laisse la parole à qui veut pour commencer.
Je veux bien continuer. Le yoga, comme on disait au début, c'est une science sœur de l'Ayurveda en Inde. Donc elles empruntent des outils à l'une et à l'autre, elles ont des points communs, elles ont des terrains d'exploration qui peuvent être un petit peu différents, mais qui se rejoignent. Elles ont en aucun cas, elles sont opposées ou séparées, elles sont vraiment complémentaires. Et lorsqu'on pratique le yoga, lorsqu'on est un yogi, on a tout intérêt à intégrer des éléments d'Ayurveda pour que sa pratique yogique en soit meilleure, plus confortable, plus puissante. Et à l'inverse, lorsqu'on cherche à améliorer sa santé physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle, on a tout intérêt, si on suit des principes d'Ayurveda, de purification du corps, de rééquilibrage alimentaire, de pharmacopée, etc., d'utiliser aussi des techniques yogiques, que ce soit du pranayama, donc des techniques de respiration, que ce soit des postures physiques, des asanas, que ce soit de la méditation, parce que toutes ces pratiques vont nous permettre aussi d'agir sur notre santé et donc de nous amener vers un état d'équilibre et de mieux-être global. Donc les deux sont complémentaires et on a tout intérêt à les mêler pour pouvoir bénéficier d'encore une meilleure santé et un meilleur bien-être.
Super, merci Marine. Peut-être qu'après tu nous donneras quelques exemples, vous nous donnerez quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement dans notre pratique du yoga en lien avec l'Ayurveda et vice-versa. Mais je vais déjà laisser la parole à Morgana, peut-être qu'elle répondra déjà à ça aussi.
Oui, bah Marine a très bien expliqué vraiment ce lien qui est en fait tout est lié hein, dans la tradition des Védas. Donc les Védas, c'est vraiment la tradition de connaissance on va dire indienne au sens large hein, puisqu'en réalité c'est toute la tradition le long du fleuve de l'Indus. Donc c'est vraiment une tradition qui est complète, profonde et surtout très ancienne. On ne sait pas si c'est né il y a 5000 ou 10 000 ans. Enfin, c'est assez flou au niveau des traces aussi qu'il en reste. Et en fait, au cœur de cette science védique des Védas, il y a donc l'Ayurveda, comme tu disais, et le yoga. Mais il va y avoir aussi plein d'autres sciences védiques, notamment le Jyotish, qui est l'astrologie védique, le Vashtu, qui est vraiment la science de l'habitat. Donc en fait, le yoga, c'est juste une des multiples facettes des Védas, et c'est à la fois une philosophie, mais aussi une technique psycho-physiologique, hein, qui permet de s'explorer, de dominer le psychisme inconscient. Et il ne faut pas oublier, quand on s'inscrit, le yoga, ça signifie totalité, union. Mmh. Donc, c'est vraiment cet aspect vraiment très spirituel. Et malheureusement, en ce moment, en Occident, on a tendance à se focaliser uniquement sur les postures, donc ce qu'on appelle les asanas. Mais en réalité, il y a plein de procédés dans le yoga. Bon, j'imagine que Marine, tout le monde pourra, les profs de yoga pourront sûrement en parler mieux que moi, mais dans les traités de base du yoga, donc rédigé par Panjali, donc vraiment c'est le rédacteur du Yoga Sutra, Ashta, ça veut dire 8, et Anga, c'est les membres, les parties. Donc le yoga Ashtanga, ça veut dire les 8 procédés. Et on a donc 8 procédés en plus des positions du yoga. Donc tu t'en parlais tout à l'heure un peu Marine, avec notamment les pranayana, donc où là on va vraiment utiliser le souffle. On va régulariser, ralentir le souffle pour avoir une fonction respiratoire dynamique, une vie psychique qui sera plus équilibrée. Vraiment, voilà, ça va être le rééquilibrage par le souffle. Et donc voilà, on va utiliser notamment peut-être Kapalabhati, qui est une des multiples respirations, enfin, des multiples pranayama qui facilite la circulation du souffle, qui va nettoyer les canaux, donc celui-ci, il est très connu. Mais après, on va utiliser aussi plein d'autres choses. Il y a plein d'autres procédés, notamment il y a aussi Yama qui interdit de nuire. Enfin, il y a tout un code moral en fait autour de l'Ayurveda et du yoga. Va y avoir aussi les Niyama qui recommandent la propreté, l'ascétisme, la sérénité. Donc les asanas, donc là c'est les postures, donc c'est le truc le plus connu. Ça a notamment des effets physiologiques, mais aussi totalement psychiques, parce que ça va vraiment, le yoga, c'est comme tu disais, vraiment réguler le mental et apprendre à trouver cette paix intérieure. C'est une forme de méditation active, hein, finalement. Après, on va avoir également donc les bandhas, qui sont, donc ça veut dire verrou, où là, c'est plus musculaire, hein, notamment, on connaît bien le bandha, surtout au niveau du périnée, quand on pratique le yoga, il y a les mudras, donc là, c'est les cercles avec les doigts, et tout ça, ça va faire circuler l'énergie d'une certaine manière, qui va vraiment compléter aussi les exercices respiratoires et les postures. On va avoir aussi le pratyahara. Donc là, ça veut dire rétractation des sens. Et donc ça permet aux yogins de contempler les objets mentalement sans passer par l'entremise des sens. Donc c'est vraiment la visualisation finalement. Donc voilà, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Il y a aussi le dharana. J'ai un petit problème de prononciation aujourd'hui, qui est plutôt la fixation de la pensée sur un objet, le dhyana, qui est l'assimilation donc magique d'un objet par la méditation. Donc notamment, on va fixer par exemple une bougie et en réciter le Gayatri Mantra, et donc là, ça va vraiment rééquilibrer Vata et Kapha, apporter de l'énergie feu. Et enfin, samadhi. Donc ça, c'est plus une technique, mais c'est vraiment un état dans lequel la dualité, connaissance et être disparaît. Donc ça, c'est un petit peu le but à atteindre du yogin, je crois. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, il y a tout un tas de choses pour vraiment voir le yoga comme une vraie pratique spirituelle qui est supposée être d'ordre spirituel à la base, mais qui a en plus des effets psychophysiologiques. Donc là, ça va vraiment intéresser à la fois les personnes en termes de psychologie, de physiologie, aussi les thérapeutes. Et donc ça, maintenant, les chercheurs ont démontré les effets du yoga, hein, sur les sinusites, les bronchites, l'asthme, les constipations, mais aussi, enfin, on l'a déspiritualisé, quoi. Je pense que Marine, tu, tu seras d'accord là-dessus, quoi.
Je voulais juste compléter par rapport à ce que tu disais, parce que là, effectivement, on a vu les 8 piliers du yoga, mais moi, je voulais vraiment qu'on apporte dans cette question-là le lien avec l'Ayurveda. On a cité, du coup, vraiment ces piliers, mais est-ce qu'il y a des concepts d'Ayurveda dont on peut parler qui seraient en lien, enfin... Je sais pas comment, peut-être que ma question est mal tournée, mais j'aimerais qu'on parle vraiment d'Ayurveda en tant que tel pour lier au yoga et venir peut-être faire le chemin inverse, en fait. Je sais pas si ma question est claire. Morgana, si tu peux...
En fait, tout est... Le but de cette explication-là, c'est vraiment de démontrer aussi que tout est lié, qu'on peut pas sectoriser les choses et que rien n'est jamais dans une petite boîte. Et notamment, ça, l'Ayurveda, avec le procédé, enfin, ce qu'on appelle les doshas, va vraiment aussi permettre, donc, de par sa constitution de naissance, de comprendre le yoga qui pourrait nous être le plus favorable. Donc, tout à l'heure, Anaïs expliquait que, par exemple, elle était pitta. Là, on va avoir besoin de refroidir, de calmer, d'apaiser. Donc, il faut un yoga qui est plus rafraîchissant.
D'accord.
Donc, un yoga qui serait trop chauffant, comme par exemple le yoga vinyasa qui est très dynamique, ça conviendrait pas. Or, ce type de yoga peut convenir par exemple à une personne kapha qui a besoin de dynamisme et de rajouter un peu de chaleur pour rééquilibrer sa constitution. Donc ça va être vraiment les trucs de base. Après, il y a des yogas qui sont très doux, qui vont rééquilibrer Vata, par exemple le yoga nidra. Donc c'est vraiment ces pratiques de yoga qui vont permettre aussi de rééquilibrer la constitution de naissance de la personne en cas de déséquilibre.
Ok, super.
Donc, ça, c'est plus la bicritie.
Donc là, c'est vrai qu'effectivement, on voit le lien entre yoga et Ayurveda. Et comme tu dis, on va se servir de ces 8 piliers pour aller et de la connaissance de ce qu'on connaît de soi de l'Ayurveda. Donc par exemple, là, comme tu as donné le dosha prédominant, pour utiliser cette pratique, qu'elle soit physique ou spirituelle du yoga ou mentale, dans son quotidien pour s'améliorer, etc. Marine, tu levais la main depuis tout à l'heure, je suis désolée, je t'ai coupée parce que j'avais besoin d'une précision. Est-ce que tu veux dire
ça? Non, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Et il y a eu plein de choses sur lesquelles j'avais eu envie de rebondir, mais on a un temps limité, donc on est bien obligé de se sentir un petit peu. Je voulais revenir d'une part sur le fait que le yoga était un petit peu déspiritualisé. En fait, il y a un truc à comprendre, c'est que le but des asanas, donc de toutes les postures, c'est pas d'être beau sur Instagram et d'avoir un corps fort, c'est de pouvoir tenir la posture de méditation le plus longtemps possible sans douleur. Pourquoi ? Parce que très justement, comme disait Morgana, yoga c'est l'union, la réunion c'est le retour à la source, à l'un, à Brahman. Donc c'est ce que on peut décrire aussi comme le samadhi. Donc c'est vraiment la réalisation du soi. Et la réalisation du soi, donc on sort de la dualité pour retrouver un état d'unité en étant encore incarné dans un corps, passe du coup par des pratiques de méditation poussées qui ne sont tenables et possibles que si on arrive à rester le corps tranquille et à avoir un souffle qui se... Enfin bref, avoir suffisamment travaillé sur son mental et sur son physique pour pouvoir comme les dépasser et sortir de cet état. Donc c'est pour ça qu'à la base, les asanas sont conçus, c'est pas pour avoir une bonne circulation, une bonne souplesse, même si bien sûr ce sont des effets très positifs, mais à la base, les asanas, ça sert à pouvoir tenir la posture de méditation le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, cette espèce de grande mode des postures physiques, c'est très bien dans un sens parce que ça diffuse le yoga à très grande échelle, ça permet à beaucoup de personnes qui sont plus intéressés par le développement corporel, de venir au yoga, qui travaillent de toute façon dans leur profondeur de façon tout à fait inconsciente, à l'insu de leur plein gré, j'ai envie de dire, et qui se retrouvent un an, deux ans plus tard à changer d'alimentation, à commencer à raisonner différemment, à être plus dans le cœur, à être plus en ouverture, etc. Au début, ils pensaient juste aller à un cours de sport, et en fait, au final, ils se retrouvent avec une modification profonde de leur être. Donc, peu importe qu'ils y rentrent par le développement physique, le travail dans la profondeur se fait quand même. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur et de la conscience globale et de l'humanité et de la Terre en général. Donc, très bien, j'ai envie de dire. Même si, bien sûr, la diffusion qu'on y a sur l'image corporelle et sur le culte, le culte du corps est bien sûr discutable. Mais à mon sens, c'est pas grave, ça permet de faire travailler les personnes, qu'elles en soient conscientes ou pas. Ensuite, le deuxième truc que je voulais dire, tu parlais du coup du lien avec les 8 branches du yoga. C'est essentiel, à mon sens, d'avoir une vision globale de tous les outils qu'offre le yoga, et pas seulement les 8 branches de l'ashtanga, parce qu'il y a aussi 4 formes de yoga. On a le bhakti, le jnana, le karma yoga, et celui dont tu parles, l'ashtanga yoga, qui est aussi connu sous le nom de raja yoga, qui est la voie de la purification physique et mentale. Mais il y a d'autres formes de yoga, donc les 3 autres que je viens de citer, qui passent aussi par la voie du cœur, donc ça c'est le bhakti, avec beaucoup de chants, beaucoup de répétitions de mantras, les pujas, et le karma yoga qui est la voie de l'action, donc on peut de l'action désintéressée. Donc c'est une autre forme aussi de travail sur soi, et le jnana qui est la voie de la connaissance. Et c'est important aussi d'avoir en tête ces 4 voies qui mènent toutes au même endroit, c'est-à-dire au samadhi, et de pouvoir aussi comprendre que le yoga c'est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que juste du travail sur le souffle et des postures physiques.
Mmh. Voilà. C'est vrai. Merci de le repréciser. Super, ben merci Marine pour ces petites, ces gros compléments. Et Morgana, et puis je vais laisser la parole à Anaïs, qui attend depuis tout à l'heure pour s'exprimer.
Ben, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais si je pouvais juste un petit peu résumer en disant que, effectivement, ben, ces deux pratiques sont complètement alliées et apportent du bien-être et de la santé et s'optimisent l'une l'autre. Et c'est l'Ayurveda intégré dans une pratique de yoga, c'est, comme le disait Morgana, va nous permettre de se connaître davantage, de connaître sa constitution ayurvédique et du coup adapter sa pratique du yoga, donc comme elle le disait, de façon plus calme et plus ancrante pour des vata, de façon plutôt douce et détoxifiante pour un pitta par exemple, et de façon plus dynamique pour un kapha. Mais elle aide aussi à l'élimination des toxines et à la guérison, donc on le disait, parce que si vous m'arrêtez si je me trompe, mais dans le yoga il n'y a pas cette approche réellement curative et sur la santé comme telle. Donc c'est comme l'Ayurveda est un vrai système de guérison, ça apporte cette vision-là de la bonne santé dans la pratique du yoga. Dans inversement, le yoga que l'on pratique lorsque l'on pratique déjà de l'Ayurveda, ça va permettre ce bien-être physique, mais également spirituel, et l'augmentation du prana, donc de l'énergie vitale dans tout le corps, qui est donc important dans les deux pratiques. Voilà, je voulais juste faire à moi ce qui me paraissait un peu le lien entre ces deux pratiques-là.
Super, merci beaucoup Anaïs. Marine, je te laisse rebondir du coup.
Non, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de pratique curative en yoga, c'est pas tout à fait juste. Tu as notamment tout ce qu'on appelle les kriyas, qui sont des techniques de purification et de rééquilibre de la santé, pour travailler justement sur l'élimination des toxines, sur la purification de tous tes nadis, et ça, les nadis, ce sont les capillaires, si vous voulez, par lesquels circule le prana. Et il y a énormément de techniques, que ce soit en kriya ou en pranayama ou même sur certains asanas, où tu vas consciemment diriger ta respiration et donc le prana dans la posture, parce que le but aussi d'un asanas, c'est de pouvoir tenir la posture en se concentrant sur la circulation énergétique à l'intérieur de donc la circulation du prana, et c'est ça aussi qui va te permettre de pouvoir aller plus loin dans une posture et de développer ton prana, ton niveau de prana intérieur. Donc il y a beaucoup de mais encore une fois, ces deux sciences, elles sont hyper liées, et il y a beaucoup de techniques de purification physique, mentale et énergétique en yoga qui sont bien sûr utilisées depuis le début.
Merci beaucoup, Morgana. Je te laisse compléter.
Et c'était juste pour conclure sur cette question, parce qu'en effet, il y a plein de choses hyper intéressantes qui ont été abordées. Et en fait, tout simplement, l'importance de toutes ces sciences védiques, c'est pas juste d'avoir une bonne santé ou de se développer spirituellement. C'est pas un truc un peu... que seules les personnes qui n'ont pas de vrais problèmes vers lesquelles elles vont aller. C'est vraiment d'amener tout simplement l'homme à vivre son plein potentiel, hein. C'est d'ouvrir sa conscience dans le but d'un plus grand bonheur au quotidien. C'est vraiment pas du tout accessoire. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de vraiment souligner tous ces points. Parce que l'Ayurveda, bon, déjà c'est pas juste une naturopathie, le yoga c'est pas juste des pratiques... Et c'est surtout pas une pratique sportive. Ça doit vraiment être mis en lien, voilà, avec toutes ces branches des Védas dont on a parlé. Et surtout, c'est pour vivre son plein potentiel. Donc, je voulais juste conclure avec ça.
C'est super. Bah, merci beaucoup. T'as bien conclu. Ça me permet du coup de passer à la prochaine question. Même si vous en avez déjà donné plein chacune, est-ce que vous avez des conseils à donner à des pratiquants de yoga, des professeurs de yoga, pour intégrer l'Ayurveda dans leur pratique, dans leur quotidien, dans leur enseignement? Peut-être des conseils simples pour commencer quand on n'a pas commencé à intégrer l'Ayurveda dans notre pratique ou dans notre enseignement, que vous pourriez donner et qui serait facile à mettre en place ou à donner à nos élèves, par exemple. Bon, voilà, je vous laisse vous exprimer sur le sujet et nous éclairer.
Un bon point de départ, ce serait pour les élèves comme pour les professeurs de connaître sa dosha, enfin sa prakriti, qui est donc sa constitution de naissance, de connaître sa propre alchimie d'origine et d'observer quels éventuels déséquilibres tempéramentaux, c'est-à-dire d'évolution de la dosha, dont on pourrait être l'objet actuellement. De faire un peu un instantané de c'est quoi ma prakriti de naissance, comment je suis née et où j'en suis aujourd'hui par rapport à cet équilibre-là. De voir un petit peu quels seraient là où les doshas en excès en ce moment. Et à partir de là, commencer à se dire, ok, de quoi j'ai besoin. Donc en tant que professeur, déjà de faire l'expérience soi-même de quoi on a besoin, quel type de posture me ferait du bien, quel type de pranayama, donc d'exercice de respiration, me ferait du bien, quel type de yoga me ferait du bien, et de pouvoir ensuite, du coup, repérer chez ses élèves quels pourraient être les différents besoins éventuels. Alors, bien sûr, on ne va pas faire un cours par élève, mais ça peut être intéressant de construire un cours avec différents moments. Là, je parle vraiment en tant que professeur, mais d'avoir une première partie de cours plus dynamisante qui va aller travailler qui va le faire monter peut-être une certaine chaleur, et ensuite de passer par des moments plus méditatifs, plus rafraîchissants. De faire déjà construire un petit peu son cours pas de façon linéaire, à pas faire que du vinyasa ou faire que du yin, de proposer des choses différentes pour pouvoir accompagner ces différents états et proposer différents états d'expérience sensorielle et intérieure. Comme ça, ça peut donner aussi des points de référence aux élèves. Déjà, commencer par là. Déjà, se connaître, soi, et essayer de voir de quoi on a besoin. Et ensuite, effectivement, d'adapter les postures et les respirations à ce dont on a besoin. Juste pour info, dans le livre que j'ai sorti là sur l'Ayurveda et le yoga, je propose justement par dosha et par prakriti surtout, mais bon, ça peut être adapté aussi au déséquilibre tempéramental de là où on en est, les postures, les exercices de respiration et l'alimentation rééquilibrante par rapport à chaque profil. Donc ça peut être un bon point de départ de faire le test, de regarder un petit peu dans quoi on se reconnaît et ensuite, du coup, de pouvoir adapter sa pratique avec ça.
Oui, c'est une super bonne idée. Et puis d'ailleurs, merci pour ton livre, parce que je suis en train de le lire et c'est ça qui a fait que j'ai pu te rencontrer. Et je pense que ça va donner de très belles idées aussi pour des constructions de séances différentes, etc. Et je pense que c'est un très bon conseil, ce que tu dis, d'essayer d'adapter aussi ces séances. Déjà, oui, effectivement, à soi en tant que prof, c'est ressenti, mais aussi à chaque dosha pour accompagner les élèves de manière différente durant chaque séance, et qu'il y ait des moments dans les séances qui soient effectivement différenciants, des retours au calme, des moments plus dynamiques, pour justement travailler tous ces états. Merci beaucoup. Anaïs, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, je voulais dire que réellement l'idéal, c'est tout ce que vient d'expliquer Marine. Dans le cas où la personne n'a pas encore peut-être les connaissances ou la volonté d'aller aussi loin que déterminer le dosha de ses élèves. Il est vrai qu'il y a quand même en Ayurveda énormément de conseils qui sont tridoshiques, donc qui s'adressent à tout le monde. Ça peut être aussi une porte d'entrée qui fasse peut-être moins peur de commencer à se renseigner quelles sont les pratiques qui sont tridoshiques, par exemple dans la Dhinacharya, donc qui sont les pratiques à mettre en place quotidiennement, notamment qui sont détoxifiantes. Il y a beaucoup de choses que tout le monde peut pratiquer, que ça va leur faire du bien. Je pense notamment à se gratter la langue le matin, à prendre un verre d'eau chaude. Des petites choses faciles et qui font pas peur aux personnes qu'on a en face, et qui vont bénéficier à tout le monde. Donc c'est peut-être une porte d'entrée à explorer.
Complètement. Merci beaucoup Morgana. Est-ce que tu voulais compléter ?
Oui, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense que oui, en effet, l'essentiel, le conseil le plus important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Connaître sa constitution ayurvédique, son fonctionnement. Donc ça va passer vraiment par l'écoute de soi, l'observation de soi. Et puis après, ben, on peut aussi faire des tests. Il y a des tests sur Internet, mais on peut aussi demander de l'aide. Parce que parfois, c'est pas facile de savoir ce qui est du ressort de notre constitution de naissance ou de son déséquilibre. Hein. Beaucoup de personnes qui confondent un petit peu du coup leur prakriti et leur vikriti quand elles font des tests toutes seules. Donc, c'est bien quand on ne se connaît pas très bien, quand on veut pas aussi trop entrer dans ce voyage vers soi, en effet, d'aller vers des choses très logiques, comme tu disais Anaïs, ou tout simplement affiner un peu en faisant des recherches plus approfondies.
C'est sûr. Donc pour ceux qui seront plus intéressés suite à cet épisode, je pense qu'ils iront chercher un petit peu plus loin et potentiellement choisir une cure d'Anaïs, lire le livre de Marine et puis peut-être une consultation avec Morgana. Est-ce que vous auriez d'autres conseils peut-être un peu plus quand on est quelqu'un qui est déjà un petit peu plus aguerri ou qui utilise déjà donc l'Ayurveda dans le yoga comme ceci, est-ce que vous auriez d'autres choses que vous auriez envie de partager?
Moi je dirais que si on est déjà un petit peu plus aguerri, que ce soit en pratique de yoga ou qu'on a déjà un peu plus l'habitude de changer son alimentation, de faire parfois des cures, des monodiètes, des choses comme ça. Ça serait d'essayer d'être dans un fonctionnement en résonance avec les cycles de la nature. Y a un grand principe en Ayurveda, c'est l'harmonie avec l'environnement et de retrouver toute sa place dans la nature et dans le grand cycle cosmique. On vit dans une époque où tout est très accéléré et beaucoup de personnes sont coupées de la nature. À mon sens, le yoga, l'Ayurveda apporte des vrais outils pour se connecter au cycle naturel. Et donc, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que ça fait de revivre un peu au rythme du soleil, de faire des pratiques à certaines heures et pas à d'autres, parce qu'à certaines heures, on va avoir le sattva qui va être plus fort, à certaines heures, on va avoir le tamas qui sera plus fort. En fonction de qui l'on est, de ce dont on a besoin, d'adapter notre alimentation, d'adapter nos pratiques au cycle naturel, au cycle lunaire aussi, il y a toute une partie aussi, l'Ayurveda au féminin, avec les pratiques du yoga de la femme, Luna Yoga, je pense à des choses comme ça. Et pour vraiment aller encore plus loin dans cette harmonisation avec les grands cycles de l'univers, parce que ça nous apporte une paix intérieure et qui est inestimable. Le fait de retrouver sa place, ça nous remet en connexion avec notre être essentiel et avec notre mission d'âme, et ça nous permet vraiment de tranquilliser beaucoup beaucoup de choses et d'apporter des vraies solutions aux grands maux de notre époque moderne, qui est dans la gratification instantanée, dans tout doit aller très vite tout de suite. On en oublie en fait la lenteur des processus physiologiques et la lenteur de l'évolution de la psyché. Donc voilà, de retourner vraiment à des rythmes plus naturels. Et ça, le yoga et l'Ayurveda apportent ça vraiment.
Ouais, je te rejoins complètement. Je fais oui de la tête depuis tout à l'heure en t'entendant parler. Morgana, je crois que tu voulais compléter et je donnerai la parole après à Anaïs.
Oui, c'est vraiment ce que tu dis, Marine. C'est primordial, l'observation du monde, de ce qui nous entoure, et l'observation de soi, l'observation de la nature. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on se coupe, en effet, dans notre société actuelle occidentale. Et en fait, c'est en observant qu'on connaît les choses et vraiment qu'on a cette connaissance du monde qu'on peut pas trouver dans les livres. Ça permet vraiment d'expérimenter et d'ancrer les choses en soi et de savoir ce qui est bon pour soi selon les saisons, selon ses déséquilibres. Et on se rend compte que quand on observe les choses, déjà on apprend à observer la vie, comment elle fonctionne, Par exemple, lorsqu'on regarde pousser une plante, on comprend mieux comment l'énergie se déploie. On voit vraiment la force de vie se manifester. Hein. La force de vie, c'est la force d'amour. Le concept d'amour qui est souvent mal compris. Hein. En fait, c'est vraiment cette force primordiale qui fait tout pousser, qui fait la vie, tout simplement. Et ainsi, on se comprend mieux et on va aller vers des choses, des rythmes de la vie et aussi des pratiques qui sont beaucoup plus naturelles. Tu disais notamment par rapport au soleil, suivre davantage le lever et le coucher du soleil. Et puis tout simplement, ben, consommer local et de saison. Parce que en principe, selon l'Ayurveda, tout ce qui est bon pour soi dans la nature, c'est censé être vraiment autour de soi. Et de saison. On le voit bien quand on observe, par exemple, un petit exemple tout bête, hein, les oranges. On voit qu'en fin de saison, il y a des oranges sanguines. Et à l'intérieur, quand on observe cette orange, on se dit, ah ben elle est un peu plus rouge. Et ben ça rééquilibre quoi, le rouge? Ça apporte un peu plus de feu dans le corps. Et avec un peu plus de feu, cette période où du coup le corps a besoin d'un peu plus de feu, et ben la nature lui propose une orange qui a quand même plus de feu. C'est magnifique, ça permet vraiment de rééquilibrer un peu plus Kapha et Vata à ce moment de l'année. Donc vraiment, on a tout ce qu'il nous faut quand on sait observer et apprendre à se rééquilibrer comme ça avec la nature autour de soi.
Super, ben, merci d'avoir complété et puis j'ai laissé Anaïs compléter aussi.
Moi je voulais dire que oui, c'est complètement l'observation, la connexion avec la nature. Et cette observation, je voulais juste ajouter que, et c'est assez logique, mais on l'oublie parfois, qu'elle est très bienveillante. On s'observe, on s'écoute, on ajuste. Et on n'a pas besoin de comprendre obligatoirement tous les concepts. Là, on a parlé aujourd'hui de beaucoup de mots en sanskrit, beaucoup de concepts un peu difficiles parfois à appréhender. Et qu'en définitive, que ce soit le yoga, l'ayurveda, c'est une approche qui n'est pas du tout culpabilisante. Et que il faut juste être bienveillant avec soi-même, prendre le temps. Voilà. Marine en a beaucoup parlé de prendre le temps, mais prendre le temps et se laisser aller, et qu'il y ait du lâcher prise et voilà. La bienveillance, la douceur, je pense que c'est des mots qu'il faut se réapproprier.
Oui, complètement. Je crois que plus personne ne lève la main pour compléter, mais merci beaucoup pour tout ce que vous avez ajouté. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous voulez clarifier en lien avec l'Ayurveda, le yoga, peut-être une question que j'aurais pas posée, d'autres conseils que vous avez envie de donner pour peut-être aller sur une fin proche?
Ben moi, je peux ajouter quand même que dans l'Ayurveda, un des outils qui est quand même très puissant, ben ce sont les plantes et les épices que l'on a apportées, qui sont sadiques, comme expliquait Marine dans les gunas, et moi, je le vois un peu comme un outil extérieur que l'on peut apporter à soi, et d'où l'intérêt, moi, de mes cures, hein, que j'ai voulu tridoshik aussi, pour permettre à tout le monde d'aborder l'Ayurveda de manière simple, apporter ces plantes quotidiennement pour trouver l'équilibre. Donc voilà, l'importance des plantes et des épices comme outil de rééquilibrage, c'est important.
Oui. Super, merci. Marine ou Morgana?
Oui, pour rebondir sur ce que disait Anaïs, ce qui est vraiment un plus, c'est que là, on a tout un tas d'outils hein, qui nous sont proposés, avec des pratiques, aussi des solutions extérieures, notamment par l'alimentation, par les plantes de la pharmacopée ayurvédique, ou pas d'ailleurs, puisque toutes les plantes sont ayurvédiques, parce qu'elles ont toutes des propriétés intéressantes, hein, y compris en Occident. Mais vraiment, ce que nous invite aussi à faire les Védas, c'est vraiment trouver à l'intérieur de soi aussi cette paix intérieure, cette santé, vraiment ce développement, ce premier pas dans le développement de soi, vers soi, tout simplement. Parce que je pense que on est tous dans ce cheminement vers soi, et c'est là le début du chemin, en tout cas. Et c'est une porte intéressante à ouvrir pour aller vers soi. Hein. Tout, ces pratiques.
Vous parliez beaucoup de ce que nous inculque la société, etc. Et effectivement, ce retour vers soi, se faire plaisir, s'écouter, c'est très important que ce soit en yoga, en Ayurveda, apprendre à mieux se connaître pour essayer de savoir ce qui est bon pour nous. Et puis aussi, garder ce plaisir de se faire du bien. C'est-à-dire que, et on parlait d'alimentation, si je donne un exemple simple, manger sainement, c'est très bien, mais aussi savoir se faire plaisir avec des goûts qui nous font du bien, bah c'est aussi très important. Donc voilà, rester à l'écoute de soi, partager ce qui nous fait du bien et ce qu'on sait qui nous apporte du bien-être, mais aussi parfois être capable de faire des excès, de s'écouter parce qu'on en a envie, c'est aussi très important et je pense que ça participe à ce bien-être intérieur et extérieur. Marine, est-ce que tu voulais compléter ?
À mon sens, on se tourne vers ce genre de pratique parce qu'on souffre. Sans souffrance, la souffrance, elle sert de déclencheur à l'éveil, à la prise de conscience. Donc, si quelqu'un est en souffrance, il va chercher des solutions. Et à mon sens, aujourd'hui, on a vécu des choses quand même très chaotiques, très perturbantes ces derniers temps, où se positionner en fonction de l'environnement n'est plus possible aujourd'hui. C'est un peu un système où beaucoup de personnes avaient tendance à se positionner de façon horizontale, à être seulement dans une relation horizontale au monde, c'est-à-dire à se déterminer en fonction des circonstances extérieures. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible comme type de fonctionnement, parce que l'extérieur, il est trop changeant et on a vu trop de chaos autour de nous. Et beaucoup de personnes, du coup, n'ont plus de repères. Un système de repères qui a volé en éclats. Et beaucoup d'anxiété, de peur a été générée à partir de ça. Donc la solution, c'est de travailler sa verticalité, c'est de se relier à soi, aux énergies cosmiques et aux énergies telluriques, d'être vraiment dans une recherche d'équilibre intérieur où on ne dépend plus de l'extérieur pour aller bien. Nous avons nos propres solutions et nous sommes la solution. Et donc ce retour à soi, il prend toute son importance. Parce que c'est à partir de cette stabilité, de cette force intérieure qu'on va développer, que du coup on sera non affecté par les changements extérieurs et qu'on sera à même de pouvoir naviguer, quel que soit le chaos autour de nous, en restant aligné, stable et sans souffrir. Idéalement, bien sûr.
Donc en quelque sorte, se réussir à s'autosuffire dans sa médecine, dans sa pratique, dans son quotidien en fait.
Exactement, et de pas être dans une forme de dépendance d'un avis médical ou bien sûr, et on a toujours besoin d'avis de professionnels de santé. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste qu'on est responsable aussi de son évolution, de sa santé, et c'est à chacun de se prendre en charge, de pas attendre de l'extérieur la solution, parce qu'on a en nous tout le potentiel nécessaire. On a toutes les solutions, on a tout ce dont on a besoin. L'essentiel étant de pouvoir après donner à son corps les bonnes billes pour éventuellement rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer et de faire les pratiques qui vont nous permettre de manifester ce potentiel.
Oui, c'est en ça qu'on a besoin potentiellement d'être guidé. Une fois qu'on sait à peu près ce qui est nécessaire pour nous, effectivement, on peut se tourner vers les professionnels de santé ou de bien-être qui sont là pour accompagner.
Qui sont là pour accompagner, mais pas pour vous porter à votre place.
Exactement.
Chacun est responsable de son évolution. Bien sûr, les professionnels de santé, on a notre rôle à jouer. On est là pour, comme les professeurs de yoga aussi, on a des rôles, des missions de service à l'autre qui sont... Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on... En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis incarnée, je suis dans une mission de service. Mais on n'est pas là pour porter les gens à leur place.
Oui, on ne pourra pas guérir quelqu'un qui n'a pas envie d'être guéri, on ne pourra pas accompagner quelqu'un qui ne sait pas qu'il a besoin de cet accompagnement. Il faut déjà que ça vienne de cette personne. On est d'accord. Morgana, tu voulais compléter.
Oui, je remercie infiniment Marine d'avoir ouvert le sujet là-dessus, parce qu'en effet, la santé, la joie, la paix, elles se cultivent à l'intérieur de soi. Et c'est ce jardin intérieur qui est finalement notre véritable Éden. On doit juste apprendre à regarder les fleurs s'épanouir en nous, leur donner l'amour pour pousser, les bonnes choses, voilà, pour avoir un sol fertile et bénéfique. C'est en quelque sorte une écologie intérieure qu'on doit mener en ce moment, où on décide de ce qu'on souhaite faire pousser ou pas, dans nos pensées, à l'extérieur. Et c'est ce microcosme qui est contagieux, en fait. On va pouvoir le transmettre grâce à nos vibrations. Et voilà, c'est cet état qui est en équilibre. C'est cette contagion-là qu'on doit propager aujourd'hui.
Merci Mariana. Et c'était très joliment dit. Du coup, ça m'amène à ma dernière question, même si vous avez déjà aussi fait des messages très jolis. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, un dernier conseil à nos auditeurs ou une dédicace ou peu importe, quelque chose que vous avez envie de laisser pour terminer cet épisode? Anaïs, te laisse commencer peut-être.
Pas vraiment. Je pense que ça, j'étais en train de me remémorer tout ce qui a été dit. Ça a été tellement riche. Mais voilà, s'écouter, être bienveillant, prendre du plaisir, comme tu le disais, Alexandre, ça me semble aussi extrêmement important. Et de redevenir acteur de son bien-être, de sa santé, comme le disait Marine. Voilà, je pense que c'est des points qu'il faut garder, quelques petits mots comme ça. Ça serait cela que je mettrais en exergue.
Merci, oui c'est vrai, c'est des bons mots qui reflètent notre conversation. Marine, est-ce que tu veux compléter?
Y a la grande phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voudriez voir dans le monde. Donc on ne peut pas changer le monde, mais on peut se changer soi. Et garder en tête que si on vivait dans un grand paradis, on n'aurait pas besoin de faire de travail de développement personnel, on se satisferait de ça. Donc les circonstances extérieures qui sont difficiles, c'est fait exprès. C'est pour vous obliger à bouger. C'est pour nous obliger à bouger. Donc, réjouissons-nous.
Super,
merci. Les conditions sont idéales pour le développement personnel.
C'est ça. Un travail de tous les jours et de toute une vie, voire plusieurs vies. Morgana, est-ce que tu veux compléter?
Juste rebondir voilà, sur tout ce qui a été dit. C'est vrai que les événements extérieurs n'ont rien à voir avec la paix qu'on peut ressentir à l'intérieur. On voit bien avec, notamment dans les lettres de Mandela, hein, on voit qu'il était très libre alors même qu'il était en prison. C'est vraiment en vous que la liberté se situe. Et j'ai l'impression qu'on a un vaisseau de chair et qu'un équipement high-tech. Et on a souvent l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi. Et justement, on a la chance d'avoir les Védas, notamment, mais plein d'autres traditions qui nous ont laissé des modes d'emploi. Et maintenant, c'est à nous de se les approprier.
C'est vrai. Merci Morgana et merci les filles pour cette belle conversation qui fait un peu plus d'une heure maintenant. Merci de vous être livrées à nous, d'avoir partagé vos conseils, vos astuces, ce lien avec le yoga, l'Ayurveda et on aurait pu en parler je pense pendant beaucoup plus longtemps mais c'est déjà une belle partie qu'on a pu explorer ensemble et je pense que la traduction de tout ça ce serait vraiment voilà, se connecter à soi, apprendre à mieux s'écouter et essayer d'être c'est en se connaissant un petit peu mieux qu'on arrivera à trouver les clés de notre développement personnel. En tout cas merci beaucoup à vous et très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. Alexandre.
Merci à tous.
Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions. Ça me fera très plaisir. Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter.
15 minutes could save you 15% or more.
My dad used to say that.
Sure, yeah. It's from Geico.
Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use.
Okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent?
Nah, he was just a real good dad.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.
Each of us has a purpose. we are destined to do something meaningful. Not only to support our loved ones, but to positively impact our communities throughout the country. What do you think a private Christian education looks like? Grand Canyon University graduates 25,000 students yearly and offers more than 225 high-quality programs across 9 colleges. Find your purpose at GCU. Visit gcu.edu.